bonjour, vous êtes bien du coup sur le Canu Info. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par parler du coup des événements suite à ce qui s'est passé du coup dans la nuit du 13 au 14.
Voilà, ensuite on parlera de la COP 21, donc le sommet qui a lieu à Paris, qui regroupe beaucoup de pays pour parler d'écologie avec des gros guillemets.
Ensuite, on va enchaîner avec les mesures d'urgence pour les migrants de Calais.
Ensuite, on parlera de la fin du RSA Activité. Alors ça, on va voir par quoi le RSA Activité va être remplacé prochainement.
Et on va aborder également les élections au Congo-Brazzaville et en Côte d'Ivoire.
Et ensuite, il y aura quelques brèves sur l'actualité locale.
Et ensuite, le fameux agenda.
Mais tout de suite, on commence donc sur l'actualité de la semaine post-attentat. La nouvelle est tombée hier à Lyon. La fête des Lumières est allumée. Presque. Les commerçants déplorent ce matin sur France Inter le manque à gagner. Plus de 30 000 euros, disent certains hôteliers, restaurateurs. C'est sans parler aussi de ces sympathiques petits vendeurs de vin chaud et de ces bons stands qui sentent la cannelle. Les petits lampions remplaceront donc cette année les super productions des infographistes. Les Lyonnais soufflent, pas besoin d'aller chez Tante Simone le week-end du 8 décembre. Michel Delpouech, c'est son vrai nom, c'est le nouveau préfet du Rhône, salue cette décision de sagesse de la part du maire. Je cite, « Les moyens, sous-entendus policiers, seront supérieurs pour le 8 décembre par rapport aux années précédentes. Le contexte est exceptionnel, la menace est réelle et les actes de Paris ont été d'une barbarie extrême. La vie continue et le vivre ensemble sera plus fort que les attaques. »
Parce que du coup, le 8 décembre, il y a quand même quelque chose, même si les fêtes sont annulées.
Exactement, il y a une fête au Lampion. Enfin, en gros, on va refaire la fête des Lumières telle qu'elle était à l'époque où Lyon était vraiment...
Ah, pour dire merci à Marie d'avoir chassé la peste dans les années 1800.
C'est ça, exactement. Donc, citation du préfet Delpouech qui nous rappelle ces injonctions paradoxales qui sont devenues en une semaine reines des discours publics. Par exemple de citation d'injonction paradoxale, pardon, soyons prudents, n'ayons pas peur, ou alors luttons pour nos libertés attaquées en renforçant la sécurité. Ou comme le disait Monsieur Hollande devant le Congrès, réuni lundi à Versailles, où il venait d'annoncer sa volonté de prolonger l'état d'urgence pour 3 mois, avant de proposer la modification constitutionnelle pour gérer l'état de crise, carrément, c'est-à-dire mettre cet état d'urgence dans la Constitution, plus simplement une loi. François Hollande, donc, qui venait d'annoncer ça, affirmait tout de même vouloir que la France, je cite, puisse rester elle-même. Injonction paradoxale sur injonction paradoxale, ces idées font leur bonhomme de chemin et ça valent aujourd'hui tout rond. Finalement, on pourrait nous dire sans rire que la paix, c'est la guerre. Vendredi 13 novembre 2015, on revient donc là-dessus. Il y a une semaine, un peu après 21h, Paris subit des attentats coordonnés dans une rue du 10e arrondissement, dans une salle de spectacle et au Stade de France. 129 morts, plus de 300 blessés. L'info n'a pas dû vous échapper. Dans la soirée, le président de la République, qui a dû être discrètement exfiltré du stade de foot, s'adresse à la télé, aux Françaises et aux Français et leur explique la gravité de la situation. Depuis, opérations policières de grande envergure, offensives militaires quotidiennes, déclarations politiques et discours de l'ordre inondent les ondes, les télés, la presse papier. Dans la rue ce matin, en allant au travail, je croise une des magazines à grand tirage qui font leur publicité sous les abribus. Et celle-ci se charge d'enfoncer le clou, la palme peut-être à l'hebdomadaire Le Point, qui titre sur une photo de 3 personnes en train de s'enlacer dans la rue, cherchant sans doute le réconfort de proches après l'attaque sanglante de Paris. Le Point donc, qui titre d'un trait solennel et presque officiel « Notre guerre ». Pas besoin de museler la presse, en effet, dans l'état d'urgence, puisque la presse a été retirée des mesures d'exception. Elle suit, pour presque son entière majorité, l'appel à la mobilisation générale. C'est donc officiel, l'État, la République française se déclare en guerre et même Nicolas Sarkozy, l'opposant qui ne sait dès lors plus trop quoi opposer, la veut totale, cette guerre, comme la dernière. Peu leur importe que cette guerre ait commencé depuis longtemps, que cette guerre impérialiste qui touche à la fois les quartiers des grandes villes françaises depuis plusieurs décennies et les territoires des anciennes colonies depuis plus d'un siècle est aussi l'origine du sanglant massacre de vendredi dernier. Peu importe l'histoire, la sociologie, la géographie, qui permettent de comprendre au moins en partie comment de jeunes Français en arrivent à tirer aveuglément dans une foule d'anonymes. Pas excuser, évidemment, on nous fera vite le procès, mais juste comprendre. Comprendre, par exemple, que si Daesh est né régionalement des sales guerres impérialistes des Occidentaux pour le contrôle des ressources, des routes, il est peut-être un peu étrange de s'en remettre à ces mêmes gouvernements lorsqu'il s'agit d'assurer notre sécurité et de retrouver la paix. Et M. Hollande, toujours lui, de commenter assez lamentablement lors de cette fameuse réunion du Congrès réuni à Versailles, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, notre glorieuse révolution à laquelle on se réfère constamment. Il commente donc cet article 2 et cite le droit du peuple de résister à l'oppression, mettant ça en parallèle donc avec l'attaque de Daesh et faisant fi du contexte dans lequel a été rédigé cet article, qui a été rédigé par des gens qui faisaient ici uniquement référence à l'oppression d'un gouvernement liberticide, justement, et rien d'autre. Mais peu importe les mots, l'histoire, ce qui compte, semble-t-il, une fois l'odieux massacre commis, c'est de bomber le torse et de sortir les muscles, en continuant à frapper plus fort, plus intensément sur les terrains de la guerre extérieure, pour venger l'affront. Sortir ses muscles aussi pour tenir la population en métropole. La loi d'exception sera la règle. L'antiterroriste, une méthode de gouvernement. Pas si nouvelle d'ailleurs. Une semaine après, nous sommes là, nous sommes encore un peu exsangues, blême de lire, d'entendre dans tant de voix qui appellent à la mobilisation guerrière et justifient le tour de main sécuritaire d'un gouvernement qui n'arrive manifestement plus à garantir notre sécurité. Cette sécurité d'ailleurs qu'ils nous promettent, nous n'en voulons pas, et leur guerre, nous le savons bien, depuis longtemps, eux aussi sans doute, n'a que le chaos pour horizon. Nous vous proposons donc aujourd'hui de revenir sur cette semaine de mono-actualité, de faire un peu comme tout le monde finalement, on essaiera peut-être d'éviter de se perdre dans des considérations trop géopolitiques, à savoir est-ce que c'est bien de s'allier avec la Russie, que penser du rôle de l'Arabie Saoudite ou du financement de Daesh, etc., etc., puisqu'à chaque fois, c'est en fait un peu reposer la question de l'ingérence. Enfin, ce que je pense peut-être tout seul. On évitera également de commenter les déclarations politiciennes. Oui, les députés, à la quasi-unanimité, ont voté hier le prolongement pour 3 mois de l'état d'urgence. Est-ce vraiment étonnant? Peut-être pas. Et oui, c'est vrai, après un semblant d'union nationale un peu flippante, les petites phrases, les stratégies électorales sont reparties pour le bonheur des commentateurs et vendeurs d'espaces publicitaires dans la presse. Alors voilà, c'est la guerre, et on le sait depuis pas mal de temps. On va essayer d'y réfléchir pendant une petite partie de cette heure, et en attendant, on peut peut-être écouter un groupe qui n'aime pas du tout la guerre.
Ces machines de guerre, des tonnes et des tonnes de fer, entreposées prêtes à rugir, prêtes à rougir la terre, qu'on génère contre con, génère une rime en on. Prévert nous l'a pourtant bien dit, quelle connerie, la guerre, sournoiserie nucléaire. Sous-marin de poche revolver, bonbon napalm, goût chimique, panoplie de sapeur panique. On n'arrête pas l'imaginaire pour se faire sauter la cafetière. 100 fois de quoi s'envoyer en l'air, de quoi descendre le soleil, de quoi éteindre le ciel. C'est moi le plus fort nananaire, quel pâté on vous a mis, des tonnes et des tonnes de fer dans la chair ennemie. Mais tapez la chair confrère, vous n'étiez pas mal non plus, cette fois c'est la terre des derres, avant la prochaine bien entendu. Les huiles ainsi s'en vont signant, des traités aux petits oignons, après avoir saigné à blanc, se partagent terre et pognon, trace des frontières bidons. Secret de nos piteux états, l'argent est roi et marche au pas, tambour insoufflé, frais tirelire, une, deux et trois, à quatre on tire dans le tas. Machine de guerre dans les hangars de la mémoire, basta cessant de croiser le fer, plus de boucherie, plus d'abattoir, maintenant on va baisser le store, laisser la connerie au vestiaire, y a plus d'amateurs pour ce sport, plus personne sous les bannières, pourquoi pas la belle utopie. Faites un bilan professionnel, une reconversion réussie. Faites-vous la paire, faites-vous la belle. Engagez-vous dans le parti qui déclare la guerre à la guerre. Sortez-vous le nez du kaki. Il y a des tonnes de choses à faire avec votre matos et votre génie pour remettre en état la terre. Rangez tous vos affreux joujoux, faites tourner le calumet. Et foutez-nous la paix.
Et maintenant, on va partager avec vous un extrait de la lettre ouverte que David Van Reybrouck, donc, qui est un écrivain historien néerlandais, a écrite du coup à Hollande suite au discours qu'il a prononcé au lendemain du coup des attentats. Alors pour rafraîchir un peu les mémoires, je vais partager avec vous un extrait de ce qu'a dit Hollande. Ce qui s'est produit hier à Paris et à Saint-Denis près du Stade de France est un acte de guerre. Et face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées. C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daesh. Une armée de terroristes contre la France, contre les valeurs que nous défendons partout dans le monde, contre ce que nous sommes, un pays libre qui parle à l'ensemble de la planète. C'est un acte de guerre qui a été préparé, organisé, planifié de l'extérieur avec des complicités intérieures que l'enquête fera découvrir. C'est un acte de barbarie absolue. Et donc, suite à ça, David Van Reybrouck a écrit une grande lettre ouverte qui est assez belle. Et à un moment, il a insisté sur la notion du coup d'armée. Et donc, voilà l'extrait qui parle de cette notion d'armée. Pour autant que l'on sache, il pourrait s'agir d'individus incontrôlés. Sans doute pour la plupart des citoyens français revenus de Syrie, ils y ont appris à manier des armes et des explosifs, s'y sont immergés dans une idéologie totalitaire, crypto-théologique, et s'y sont familiarisés aux opérations militaires. Ils sont devenus des monstres, tout en tant qu'ils sont, mais ils ne sont pas une armée. Le communiqué de Daesh glorifiait les lieux soigneusement choisis des attentats. Vos propres services soulignaient le professionnalisme de leur auteur. Sur ce point, remarquons que vous parlez la même langue. Mais qu'en est-il en réalité? Les trois hommes qui se sont rendus au Stade de France, où vous assistiez à un match amical de football de la France contre l'Allemagne, semblent plutôt être des amateurs. Ils voulaient sans doute pénétrer dans l'enceinte pour commettre un attentat contre vous. C'est fort possible. Mais celui qui se fait sauter à proximité d'un McDonald's et n'entraîne qu'une victime dans sa mort est un bien piètre terroriste. Qui ne fait que 4 morts, entre parenthèses, avec 3 attentats suicides, alors qu'un peu plus tard, une masse humaine de 80 000 personnes sort de l'enceinte, est un bon à rien. Qui veut décimer le public d'une salle avec 4 complices sans bloquer les issues de secours n'est pas un génie de la stratégie. Qui s'embarque dans une voiture et mitraille des citoyens innocents et sans armes attablés aux terrasses n'est pas un militaire formé à la tactique, mais un lâche, un enfoiré, un individu totalement dévoyé qui a lié son sort à d'autres individus du même acabit. Une meute de loups solitaires, ça existe aussi. Votre analyse d'une armée terroriste n'est pas probante. Le terme que vous avez employé, acte de guerre, est extraordinairement tendancieux. Vos tentatives de calmer la nation menacent la sécurité du monde. Votre recours à un vocabulaire énergique ne signale que la faiblesse. Voilà, c'était un extrait qui parle, je trouve.
Et on peut revenir maintenant, prendre un petit peu de hauteur sur ces lois antiterroristes et regarder... quelles ont été quelques-unes de ces lois qui ont été votées en France depuis 15 ans, disons, et suite à quels événements elles ont été adoptées. Donc ces dernières décennies, on s'y est presque habitué, mais les faits divers sanglants, aux faits divers sanglants, très souvent, répondent de nouvelles lois, et ces lois sont la plupart du temps évidemment sécuritaires. L'état de crise devient dès lors la norme et s'invite dans ces fameuses lois. Alors il sera un peu long et fastidieux de lister toutes les lois sécuritaires qui répondent justement à ces faits divers ou à des pressions politiciennes souvent venues de l'extrême droite. Cependant, j'en ai relevé quelques-unes pour vous. J'ai commencé avec les lois qui sont sorties en France après les attentats du 11 septembre 2001 qui ont touché New York. Et dès le 15 novembre 2001, le gouvernement de l'époque en France, il est dirigé par Lionel Jospin, on est en période de cohabitation, et le ministre de l'Intérieur, c'est M. Vaillant. Donc la loi qui est mise en place à l'époque, c'est la loi Vaillant. Sa loi s'appelle la loi sur la sécurité quotidienne, et elle regroupe différents moyens de lutter contre le terrorisme déjà. Elle étend les possibilités de contrôle d'identité, de perquisition, de contrôle des bagages et des véhicules. Elle augmente la durée de conservation des données des fournisseurs d'accès à Internet. Alors à l'époque, il y a très peu d'internautes, on est en 2001, hein. Mais déjà on sent que c'est un peu le nerf de la guerre, ou au moins un des nerfs de la guerre. Elle étend aussi le contenu du fichier national des empreintes génétiques et rend enfin passible de prison le fait de refuser un prélèvement ADN. Alors je dis enfin, mais pas vraiment, puisque peut-être que vous en rappelez au moins pour ça, l'amendement Marini limite aussi l'organisation des free parties. On est au début des années 2000 et la fin des années 90, c'était la grande époque des free parties. Donc on en profite après le 11 septembre 2001 par cet amendement pour limiter et contrôler davantage l'organisation de ces free parties. Le 21 avril 2002, pas d'attentat, pas de faits divers sanglants, mais l'arrivée de Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Et là aussi, ça augure un virage sécuritaire de grande ampleur. Le sentiment d'insécurité, dont on entend parler un petit peu partout dans la presse à l'époque, et encore aujourd'hui, hein, c'est une sémantique qui est apparue à la fin des années 70, est le sujet de l'époque. Dans le viseur, les banlieues et ces jeunes, les pauvres qui font mauvais genre, mais aussi les manifestations qui débordent, comme un an plus tôt, la manifestation anti-mondialisation à Gênes. Le nouveau gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, qui a donc pour président Jacques Chirac, et son ministre star de l'époque, donc Nicolas Sarkozy, pourquoi pas, font passer la fameuse LOPSI, dont on parle notamment beaucoup à l'époque, car elle légalise l'utilisation du flashball. Peut-être que vous vous rappelez de tous les débats que ça a auguré. Et un an plus tard, en 2003, la LSI, loi sur la sécurité intérieure, sanctionne les regroupements dans les halls d'immeubles, le racolage passif et la mendicité agressive. Le 9 mars 2004, deux ans après donc l'arrivée de Sarkozy comme ministre de l'Intérieur, la loi Perben 2 du ministre de la Justice de l'époque est également extrêmement répressive. Alors je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais elle crée notamment une procédure dérogatoire en matière de criminalité, de délinquance organisée pour acte de terrorisme. Du coup, les avocats peuvent intervenir en garde à vue. L'intervention de l'avocat en garde à vue ne peut intervenir qu'à partir de la 36e heure, et cette garde à vue peut durer jusqu'à 4 jours. le 8 novembre 2005, nouvelle loi, et alors, non, enfin, pas nouvelle loi, justement, on sait quasiment il y a 10 ans, et le 8 novembre 2005, une loi sur la loi qui a actuellement été mise en place, donc la loi de...
L'état d'urgence,
merci, qui date en fait de la guerre d'Algérie. L'état d'urgence est promulgué par Jacques Chirac et Dominique de Villepin. À l'époque, l'explique, on est en plein pendant les émeutes des
Retour
banlieues.
Ce matin, le lundi 7 novembre 2005. Au journal télévisé de TF1, le Premier ministre Dominique de Villepin vient informer les Français de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence pour faire face aux révoltes de plus en plus violentes dans les banlieues. Mais vous allez l'entendre, le Premier ministre évite soigneusement d'employer l'expression qui fâche.
Ce contexte particulièrement grave, le président de la République a décidé de convoquer demain matin le Conseil des ministres et de mettre en œuvre les dispositions de la loi de 1955. Partout où c'est nécessaire, les préfets pourront, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, appliquer le couvre-feu, s'ils l'estiment utile, pour permettre un retour au calme et assurer la protection des habitants. C'est notre première responsabilité, c'est notre premier devoir.
La simple allusion à, je cite, la loi de 1955 n'est évidemment pas fortuite. D'ailleurs, Jacques Chirac avait lui aussi refusé de parler d'état d'urgence dans son communiqué, se contentant également de loi de 1955. L'exécutif souhaitait ainsi éviter de dramatiser les enjeux, et il est vrai que l'état d'urgence n'avait pas été décrété sur le sol métropolitain depuis la fin de la guerre d'Algérie.
Sur le sol métropolitain, oui, depuis la fin de la guerre d'Algérie, et il avait été entre-temps dans les années 80 utilisé en Nouvelle-Calédonie contre les indépendantistes insurgés calédoniens. Donc à chaque fois, en fait, cette loi d'état d'urgence, en tout cas jusque dans les années 80, était utilisée contre des mouvements de décolonisation ou anti-impérialistes. Donc on s'est interrogé dès lors à l'époque, en 2005, lorsqu'il a été mis en application dans les banlieues, sur le sort réservé aux immigrés et à leurs familles dans ces quartiers populaires, sort un peu similaire, alors qu'on était dans les années 2000, à ce qu'on réservait aux populations coloniales. De là, l'analogie était relativement rapide et plutôt juste, je trouve. Le 23 janvier 2006, nouvelle loi sécuritaire. Alors cette fois-ci, c'est un attentat aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques jours plus tôt, le Royaume-Uni, qui est engagé aux côtés des États-Unis dans sa guerre contre l'axe du mal, en Afghanistan d'abord, puis en Irak à partir de 2003, le Royaume-Uni donc est touché par des attentats à Londres. La France réagit donc et adapte son arsenal juridique. Une nouvelle loi antiterroriste est alors adoptée. Alors à l'époque, le joujou sécuritaire, c'est la vidéosurveillance. Londres a beau être la ville la plus filmée d'Europe, ce qui n'a pas empêché l'attentat, on insiste en France à la multiplication de la vidéosurveillance qui existait déjà au préalable, mais disons qu'après la loi du 23 janvier 2006, il y a une véritable accélération. L'accès est encore élargi aux fichiers de données privées, les contrôles d'identité sont accrus, d'autant que depuis la loi sur la sécurité intérieure de Nicolas Sarkozy en 2003, les policiers ont tout à fait le droit de contrôler les identités sur la base, je cite, d'une raison plausible de soupçonner une personne. Les gardes à vue peuvent désormais durer 6 jours et non plus 4, comme il était prévu dans la loi de 2013. Voilà, donc j'ai pas eu le temps de tout compiler, parce que je m'y suis pris un peu tard. Mais rappelez quand même que cette année, suite aux attentats contre Charlie Hebdo et l'hyper-cacher, une loi a été adoptée, une loi également sécuritaire et liberticide, la loi sur le renseignement et notamment le flicage de masse d'Internet et des comportements des internautes français et étrangers. Il s'agissait, donc on en a beaucoup parlé au Canu Info et ailleurs à Radio Canu, je pense, il s'agissait d'étendre les capacités des services de renseignement et surtout aussi de légaliser de vieilles pratiques. Voilà, et en fait cette loi, elle était déjà dans les cartons dès 2012. À l'époque, Valls en avait déjà parlé en 2012 suite à l'attaque de Mohamed Merah. Voilà, donc on voit bien que la plupart de ces lois sécuritaires répondent à des attentats sans jamais vraiment les empêcher, même pas du tout, enfin, on ne sait pas trop pour le coup. Par contre, le gouvernement de la population, par ses lois antiterroristes, lui, ne cesse de se perfectionner. Voilà, alors maintenant, on va peut-être un peu décortiquer cet état d'urgence et les mesures mises en place depuis lundi, et puis donc pour 3 mois maintenant.
Morning and welcome to the White House. Today we take an essential step in defeating terrorism while protecting the constitutional rights of all Americans. With my signature, this law will give intelligence and law enforcement officials important new tools.
Mes chers compatriotes, les terroristes ont engagé la guerre à la France. Notre pays ne doit pas céder. Notre pays ne doit pas reculer. Partout en France, nous reviennent des messages qui montrent à quel point notre peuple est déterminé à vaincre la barbarie djihadiste. La guerre que nous devons livrer doit être totale. Notre devoir est de prendre en compte l'extrême gravité.
Donc alors du coup, tout à fait, on va expliquer un petit couac. On va expliquer un petit peu ce que c'est que cet état d'urgence qui a été invoqué donc depuis le 13 novembre sous le prétexte d'une guerre déclarée au terrorisme. Et du coup, par le même coup, donc en fait, il faut savoir que hier, l'Assemblée nationale a voté le projet de loi donc sur la refonte de cet état d'urgence. Alors pour info, ça a été voté 551 voix contre 6 voix, ce qui est plutôt c'est presque un consensus, hein, on peut le dire. Donc voilà. Alors on va expliquer aussi pourquoi il y a eu cette refonte. Je vais vous dire vite fait les quelques points de l'état d'urgence tel qu'il était depuis 1955. Donc les points. Alors, les préfets peuvent décréter le couvre-feu qui interdit la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux précis et à des heures fixées par arrêté. Interdire de séjour toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action des pouvoirs publics. Ensuite, le ministre de l'Intérieur peut assigner à résidence toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité de l'ordre public. Ils peuvent aussi ordonner la fermeture provisoire de salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion, et les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre. Ils peuvent ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et de la radio. Dernier point, la juridiction militaire, via un décret d'accompagnement, peut se saisir de crimes ainsi que des délits qui leur sont connexes. Donc là, en fait, le projet va viser un peu à rectifier quelques points, à les mettre à jour, et notamment aussi à enlever la juridiction militaire. Alors, l'état d'urgence, en fait, s'articule aussi par rapport à la Commission européenne des droits de l'homme, qui va fixer certains droits comme indérogeables. Donc les droits indérogeables qui ne seront a priori jamais concernés par l'état d'urgence. Donc il s'agit du droit à la vie, qui peut être... Mais il y a quand même une objection, qui peut être sacrifié pour tuer des combattants de guerre. Donc, voilà. L'interdiction de la torture, de l'esclavage et du principe de l'égalité des peines qui veut qu'on ne condamne pas quelqu'un pour quelque chose qui n'est pas une infraction au moment de l'acte. Donc voilà, donc ça laisse quand même pas mal de marge de manœuvre. Et du coup, tous les autres droits prévus par la Commission européenne des droits de l'homme peuvent faire l'objet de dérogations, donc y compris la liberté d'expression, la liberté de réunion et d'association, le droit à un procès équitable ou encore le respect à la vie privée. Et donc c'est comme ça que l'état d'urgence peut justifier des assignations à résidence, des perquisitions sous contrôle judiciaire, mais aussi donc qui concernent des choses plus récentes liées à Internet, qui sont par exemple des saisies de données privées sur les serveurs de services en ligne. Donc alors du coup voilà, donc toutes ces, il y a eu quelques modifications et c'était le but de ce projet de loi qui a été voté hier en Assemblée et qui doit passer d'ailleurs aujourd'hui au Sénat, je crois. Alors on va commencer déjà par le premier truc qui est venu très vite sur le tapis, c'était de prolonger sur les 3 mois. Donc c'est la prolongation de 3 mois de l'état d'urgence qui en fait n'est pas justifiée par d'autres motifs que de complètement squeezer la séparation des pouvoirs. Donc déjà bon nombre de perquisitions administratives conduites depuis la mise en place de cet état d'urgence le sont pour des affaires relevant du droit commun, donc sans aucun lien avec la lutte antiterroriste, et préfigure du coup d'un état policier qui est complètement hors contrôle. Et, que cette prolongation de 3 mois en fait risque de banaliser. Et le danger aussi, c'est qu'au final, selon les critères sur lesquels il a été invoqué, il est difficile de savoir quand cet état d'urgence n'est plus justifié. Puisque dans une guerre plus classique, il y a des traités entre États, des traités de paix, etc. Enfin, les choses sont beaucoup plus claires. Mais là, en brandissant une guerre contre le terrorisme, on voit pas trop l'indicateur de fin, quoi. Donc c'est un peu le souci. Donc il y a une modification aussi par rapport aux perquisitions administratives. Donc elles peuvent toujours avoir lieu de jour et de nuit, ça n'a pas été changé, sans passer par l'autorité judiciaire. Il y a une petite modification, c'est-à-dire que ça ne touchera pas les avocats, les magistrats, les journalistes. Mais par contre, nouveauté numérique, puisque c'est devenu un peu le nerf de la guerre sur toutes ces modifications par rapport à l'état d'urgence. Donc ces perquis permettront aussi la copie de tout support électronique informatique, mais pas que, puisque ça l'autorise aussi à accéder à n'importe quelle information accessible via des identifiants, mots de passe, etc., collectés lors d'une perquisition. Et du coup, c'est évidemment, c'est sans aucun contrôle judiciaire. Donc pour embrayer sur ces trucs numériques là, il y a eu l'obtention du blocage de sites internet qui peuvent faire l'apologie du terrorisme, etc. Donc ça se fait évidemment, les blocages vont se faire sans contrôle judiciaire et sans aucun délai, puisque c'est le propre de l'état d'urgence. Et donc en fait, pourquoi ils ont mis ça? Ben parce que le contrôle total de la presse, on en parlait au tout début. Bon, d'une part, ça faisait peut-être un peu too much vis-à-vis de l'opinion publique, mais de toute façon, il n'y avait pas trop besoin, car à la vue et à la lecture des médias, ils sont quand même dans le même délire que le gouvernement. Donc voilà, donc il n'y avait pas trop besoin de réaffirmer ce truc-là. Par contre, ce qui n'existait pas en 1955, c'était la sphère Internet, et qui est beaucoup plus diverse et beaucoup moins contrôlable. Et du coup, ils ont transféré le contrôle de la presse en contrôle de l'information sur Internet. Donc bon. Alors je vous lis ce que dit une phrase du projet. Le ministre de l'Intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. Alors, pour rappel, quand même, c'est pas super nouveau, ça. C'est que ce blocage administratif a été instauré avec la loi antiterroriste de 2014, qui confiait déjà cette possibilité au service de la police. Mais ici, en fait, là, c'est juste que le verrou du contrôle judiciaire a sauté. Et donc, il y a même la CNIL, donc il y a la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ne sera pas du tout consultée et prise en compte. Donc ça, c'était pour les sites Internet. Pour ce qui est de l'assignation à résidence, là aussi, une petite modif sous la forme d'une reformulation qui allège sensiblement les conditions nécessaires à cette mesure, déjà gravement attentatoire aux libertés individuelles. Donc là où en 1955, le texte demandait que l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité de l'ordre public, le projet de loi, nouveau projet de loi, prévoit quant à lui de s'appliquer aux personnes pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité de leur public. Donc la formulation est un peu plus large et floue. Aucune définition de raison sérieuse. L'étude d'impact explique que les personnes visées sont celles qui ont appelé l'attention des services de police ou de renseignement par leur comportement ou leur fréquentation, propos ou projet. Donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Cette mesure laisse donc la porte ouverte à des interprétations très très larges. C'est d'autant plus grave que les mesures prises en état d'urgence ne sont pas garanties. Toujours pareil, c'est le verrou de l'intervention du juge judiciaire. Alors, il y a eu quand même un petit truc qui a été rejeté par l'Assemblée, qui est une proposition qui était de condamner pénalement le fait de lire les sites djihadistes. Alors qu'on fait l'objet d'un fichage type S par les services de renseignement.
Alors peut-être un peu pour nos auditeurs, est-ce que des gens savent ce que c'est qu'un fichier S ? Dans les gens qui travaillent avec nous.
Ah oui, parce que les auditeurs, ils ne peuvent pas répondre.
Appelez les studios.
Pas exactement.
Et ben du coup, un fichier S, on en parle quand même beaucoup actuellement, et peut-être ça peut juste pour reprendre tout ce que tu es en train de dire aussi, et tout ce qui est flou aussi, c'est que quand on mène une guerre contre le terrorisme, et avec toutes les mesures qu'on est en train de mettre en place, elles sont mènes une guerre contre quoi ? Et quand on essaye d'attenter à la sécurité de l'État ou à troubler à l'ordre du public, de quoi parle-t-on ? Et donc on se rend compte en regardant ça qu'on peut aussi parler des personnes qui ont des troubles psychiques, qui peuvent du coup attenter à la sécurité de l'État, qu'on peut aussi parler du coup de groupes radicaux, qui peuvent être des groupes radicaux chrétiens, qui peuvent être des groupes radicaux de gauche, qui peuvent être des groupes radicaux de droite, qui peuvent être des groupes radicaux islamiques, mais qu'on parle de beaucoup de personnes. Et c'est aussi pour ça que c'est extrêmement angoissant pour une partie de la population, tout cet état d'urgence qui se met en place. Et c'est pas du tout nier ni la souffrance des proches des victimes, ni l'horreur de ce qui s'est passé lors des attentats, mais c'est se poser de la question de la réponse, et que la réponse, elle va servir dans un État qui continue au jour le jour et qui gère une population très diverse, qui gère aussi une population qui n'est pas forcément en accord avec les politiques gouvernementales. Et toute la question qui se pose un peu autour de ça, c'est quelles vont être les possibilités d'expression et les possibilités aussi de contre-expression vis-à-vis des politiques gouvernementales qui vont se mettre en place et qui se mettent déjà en place. Et voilà, du coup, peut-être pour faire comprendre aux auditeurs aussi l'importance de décortiquer cette question de l'état d'urgence et se demander aussi quel impact ça peut avoir dans le quotidien de finalement beaucoup plus de personnes que ce qu'on pourrait penser et de comment c'est présenté par des médias dominants, on peut dire.
Voilà, c'est le cadre n'est pas du tout limité au terrorisme djihadiste tel qu'il est présenté. Donc ça peut impacter vraiment beaucoup de monde. Et donc là, je vais terminer sur un dernier point qui concerne la dissolution de groupes et d'associations. Donc ça, c'était des points qui étaient déjà existants, hein, mais qui sont un petit peu modifiés. Donc le projet donne la possibilité de dissoudre les associations ou groupements qui participent, facilitent ou incitent à la commission d'actes portant atteinte grave à l'ordre public et qui comportent en leur sein des personnes assignées à résidence. Donc là aussi, c'est pareil, c'est très flou, on ne sait pas de quel acte on parle, ça c'est défini un peu à la volée. Du coup, ben, notamment, par exemple, il y a la quadrature du net qui pointe du doigt que ça permettrait notamment d'y inclure nombre d'associations promouvant, par exemple, l'utilisation de technologies de chiffrement qui sont utilisées certes par des criminels, mais surtout principalement par de nombreux citoyens innocents. Donc cette crainte est renforcée par le fait que les pouvoirs extraordinaires conférés au pouvoir administratif par l'état d'urgence sont actuellement utilisés pour des affaires sans lien avec l'antiterrorisme, en tout cas en partie. Et du coup d'ailleurs sur ces histoires de dissolution de groupe, donc en fait là on va vous donner un certain nombre d'exemples
de leur mise en œuvre,
donc qui datent de par exemple d'aujourd'hui, de hier, d'avant-hier, etc. Là, par exemple, il y a eu une demande pour dissoudre SOS Racisme. Donc ça, c'est un courrier que le maire de... Donc ça, c'est pas très loin, c'est dans le coin. Dans le coin de Lyon, hein, je veux dire. Pour ceux qui nous écouteraient qui ne seraient pas à Lyon. Dans un courrier, donc, le maire de Charvieux-Chavagneux demande, donc aujourd'hui même, au Premier ministre, la dissolution de SOS Racisme. Alors... Donc il faut savoir que les relations entre SOS Racisme et le maire étaient plutôt tumultueuses, puisque il y a eu une délibération municipale pour accueillir des réfugiés. Mais la conclusion, c'était que l'accueil pouvait se faire à condition qu'ils soient chrétiens, car eux ne procèdent pas à la décapitation de leur patron. Donc, c'est en apprenant que SOS Racisme déposait une requête devant le tribunal administratif de Grenoble contre cette délibération, que le maire de la commune de Norézières, située donc pas très loin de Lyon, lui, il a changé de couleur et il a viré au rouge. Et donc, du coup, il veut procéder au démantèlement de SOS Racisme, qui n'a pas sa place dans la République française, selon lui. Et il n'est pas possible de se rendre coupable d'une telle indécence dans le contexte que vit notre pays. Et donc, c'est lui qui écrit ça à Manuel Valls. Donc voilà, après avoir évoqué les subventions publiques que touche l'association, ou encore le fait que le président de SOS Racisme était condamné à du sursis en 2015 pour escroquerie, évidemment.
Mais du coup, on vous laisse imaginer sur des associations qui sont quand même moins subventionnées et moins dans les petits papiers, on peut dire comme ça, du PS, qui peut arriver en termes de dissolution si, à peu près moins d'une semaine avant après les attentats, des personnes élues peuvent quand même demander la dissolution de SOS Racisme. Enfin, c'est un peu pour prendre la mesure de ce qu'on peut faire avec l'état d'urgence.
Voilà, et du coup, alors il y a d'autres exemples. Et donc là, notamment, on va prendre des exemples donc, qui touchent le point notamment des réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre. Et donc il y a eu déjà plusieurs manifestations annulées.
Du coup, on peut déjà parler des manifestations qui ont d'abord été annulées à Paris, mais ça, c'est quelque chose qui a été déjà plus connu publiquement et nationalement. Et dès le dimanche après les attentats, le 15 novembre, les manifestations pro-migrants, ou en tout cas pour la liberté de circulation, étaient interdites à Paris. On pouvait se dire qu'après les 3 jours de deuil national et puis l'émotion et la manière d'entendre ça était un peu passé, ces interdictions allaient cesser, ce qui n'est pas du tout le cas. Bon, vous avez sûrement entendu parler que le 8 décembre, puis on vous l'a dit tout à l'heure, elle a été annulée. Mais beaucoup plus loin que ça, un rassemblement pro-migrants qui a été appelé à Lyon pour le samedi 21, notamment à l'initiative d'Attaque Rhône, a été annulé cet après-midi par décret préfectoral. Tout en disant, du coup je vous cite le décret préfectoral, qu'en effet, dans le contexte exceptionnel consécutif aux attentats de Paris, cette manifestation peut générer des risques de troubles à l'ordre public, notamment avec la possibilité de contre-manifestations et d'échanges violents. Justifie donc le préfet Michel Delpuech pour accompagner son arrêté. Pour nous, en tout cas, toujours pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement grave, parce que ça veut dire qu'on ne peut plus s'exprimer en tout cas dans l'espace public par des manifestations qui étaient déposées par arrêté préfectoral avant les attentats, mais en tout cas de manière dite légale hors état d'urgence sur des sujets, et notamment le sujet d'immigration qui est un sujet extrêmement important, notamment avec les amalgames qui sont faits par certains médias dominants aujourd'hui entre les attentats, la dite islamisation et l'immigration, et le fait qu'il ne puisse pas avoir de contre-voix, de voix publique, et des gens veulent s'exprimer sur cette question-là, et que ce soit extrêmement tardif, c'est une question qui est extrêmement problématique et qui pose pour moi en tout cas la question de comment militer ou porter d'autres voix aujourd'hui dans l'espace public et voilà, en France en règle générale.
Je sais pas, est-ce que je dis un mot sur l'interdiction de la manif de COP21, c'est peut-être pas nécessaire, je sais pas. mais parce que c'est déjà moins le quart en fait.
Alors du coup, pour vous expliquer, au Canu Info du vendredi, on a toujours un problème de timing pour vous raconter tout ce qu'on veut vous raconter.
Mais je pense que tu as le temps.
Bon, alors je prends le temps.
Mais pas trop non plus. Hein.
Donc en fait, en Ile-de-France, donc, toutes les manifestations ont été interdites déjà jusqu'au dimanche 22. Et le gouvernement a aussi interdit la marche pour le climat, donc prévue le 29 novembre. Et selon eux, donc, c'est la situation créée par les attentats odieux du 13 novembre et les investigations menées depuis imposent que les conditions de sécurité soient renforcées. Dans ce cadre, la totalité des manifestations organisées dans les espaces fermés et aisément sécurisables seront maintenues. Et en revanche, afin d'éviter tout risque supplémentaire, le gouvernement a décidé de ne pas autoriser donc, les marches, les différentes manifs qui étaient prévues sur la voie publique de Paris et dans d'autres villes en France, donc le 29 novembre et 12 décembre. Donc voilà, donc ça leur fait une bonne occasion pour un peu couper l'herbe sous le pied de tous les collectifs militants qui s'étaient organisés pour cette COP 21. Donc voilà, c'était pour rappeler ça. Par contre, on parlera peut-être après, notamment à Lyon, il y a enfin, les gens se mobilisent quand même pour aller sur Paris. Voilà, il y a des départs. Bon, on en reparlera après. Du coup, oh là là, je peux vous dire, alors juste.
C'est oh là là, le temps passe.
Le temps passe. Concernant, parce qu'en fait, alors c'est assez exceptionnel parce que là, il y avait eu un seul couvre-feu. En 2005, qui a été décrété. Là, il y en a deux qui sont tombés. Je ne sais plus les dates. Bah, c'est aujourd'hui. Donc, à Yonne et à hier. ça fait un peu. Mais bon, voilà. Alors, j'ai perdu ma feuille pour hier. Par contre, je peux vous dire pour Yonne. C'est un couvre-feu qui fait suite à des perquisitions administratives donc menées dans la nuit donc de jeudi à vendredi, donc voilà, hier soir, par les forces de police de la gendarmerie et qui ont découvert donc des armes non autorisées et des faux papiers. Et donc, du coup, ça, ils ont décrété l'état d'urgence. Donc chaque nuit de 22h à 6h du matin. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la circulation piétonne et routière, sauf véhicules d'urgence. Et donc ça, c'est donc ce sont interdits. Et donc ça, c'est aujourd'hui jusqu'à lundi, a priori. Donc voilà. Et pour hier, eh ben, je sais plus. Voilà.
Et peut-être du coup pour finir sur cette thématique post-attentat du 13 novembre et un peu pour faire une sorte de conclusion de toute façon très partielle, pour dire aussi que du coup ce qu'on essaye de vous dire, c'est que c'est pas forcément les méchants islamiques qui sortent de nulle part et qui attaquent la France, pays des Lumières, mais que c'est quelque chose d'un peu plus complexe que ça et qui s'appuie aussi sur des dynamismes qui sont aussi des dynamismes racistes de la part de la France dans un contexte post-colonial, et qu'il y a des vagues racistes et islamophobes qui rejaillissent comme après les attentats de Charlie, et que c'est pas anodin non plus, et que ça participe aussi en tout cas pour partie d'un processus. Et on a été quand même assez marqués de se rendre compte que dans la France entière, il y avait de plus en plus d'attaques de, par exemple, de personnes qui étaient voilées, d'attaques de mosquées, d'attaques de personnes qui représentaient en tout cas pour d'autres personnes l'islam ou en tout cas la religion musulmane. Et notamment à Lyon, par exemple, Jessime, 17 ans, a été violemment agressée samedi par une dizaine d'islamophobes, apparemment de la mouvance identitaire, du coup du GUD à Lyon. Le jeune homme a été frappé sur la place Bellecour vers 18h. Et selon le comité du CRI, le jeune homme a été lynché au sol sur fond de slogans islamophobes tels que « Islam hors d'Europe » et un passant a réussi à mettre en fuite les agresseurs en lâchant son chien sur le groupe. Selon les premières analyses médicales, le jeune homme a obtenu 30 jours d'ITT. Il a plusieurs vertèbres brisées, des hématomes et des contusions. Donc c'est quand même des choses qui sont graves et qui découlent aussi très très directement de la manière dont on interprète ces attentats. Pareil, toujours aujourd'hui, on a lu dans la presse locale qu'à Vénissieux, il y a la fermeture d'une salle de prière musulmane. Alors du coup, officiellement, sur des critères administratifs et plus ou moins sanitaires et ou de sécurité, ce que se reconnaissent les personnes qui utilisaient cette salle, mais elles disent aussi que ça faisait 2 ans qu'elles demandaient une autre salle à la municipalité, salle qu'on ne leur donnait pas, et que c'est vraiment là, moins d'une semaine après les attentats, un peu un prétexte pour fermer ces salles-là, et aussi finalement un signe politique fort adressé en tout cas à cette partie de la population, et c'est des choses qui font un peu froid dans le dos, et qu'on pense aussi important de relever, de souligner, et de mettre en lien avec la manière dont on interprète tout ce qui se passe en France aujourd'hui, avec l'état d'urgence dont on vous a parlé, avec l'évolution des lois sécuritaires, et du coup d'avoir une vigilance. Et ce que j'ai pas dit aussi tout à l'heure sur l'interdiction de la manif de samedi sur les migrants, c'est qu'on a eu du coup l'arrêté préfectoral, mais qu'on n'avait pas eu les communiqués des personnes qui appelaient à cette manifestation. Donc on ne sait pas si on continue à appeler à cette manifestation ou pas. Mais en tout cas, on a pu lire sur d'autres sites, comme par exemple Paris Lutte Info à Paris, qui est un peu l'équivalent de Rébellion sur Lyon, un appel à continuer les manifestations malgré les interdictions. Et si, à l'heure où du coup il y a ce Canu Info, on ne sait pas ce à quoi appellent les collectifs, on peut essayer de garder en tout cas ça un peu en tête.
Voilà, donc on peut fermer maintenant la page post-attentat et parler rapidement, alors peut-être d'abord des mesures d'urgence pour les migrants et ensuite de la fin du RSA activité.
Alors, les mesures d'urgence pour les migrants de Calais, c'est le Conseil d'État qui doit rendre une décision lundi. Pourquoi ? Parce que le Conseil d'État a examiné ce jeudi après-midi l'appel qui avait été porté par le ministère de l'Intérieur et la ville de Calais. En fait, ils ont été condamnés le 2 novembre par le tribunal administratif de Lille à prendre des mesures d'urgence pour améliorer les conditions de vie des migrants dans les camps tolérés par l'État. Et la décision sera rendue lundi. C'est, du coup, il y a une audience hier où le Conseil d'État a examiné l'appel porté par le ministre de l'Intérieur et la ville de Calais parce que la juridiction a mis sa décision en délibéré et la rendra ce lundi 23 novembre. Et la condamnation par le tribunal administratif de Lille intervenait après la saisine de Médecins du Monde et du Secours catholique. C'était le 26 octobre via un référé. Il visait à contraindre l'État et la ville à prendre des dispositions pour améliorer les conditions de vie des migrants de la jungle. Du coup, il y avait donc la jungle où il y a 4500 personnes à peu près qui sont à proximité du centre d'accueil dans des conditions insalubres. Du coup, dans son ordonnance, le juge du tribunal administratif de Lille avait demandé au préfet du Pas-de-Calais et à la municipalité de Calais de créer 10 points d'eau supplémentaires, de mettre des latrines. Enfin, il y avait toutes sortes de demandes comme ça qui veillaient à l'hygiène du site et à créer des accès à l'intérieur pour permettre aux accès de services d'urgence de venir. Enfin voilà, il y avait plein de mesures comme ça. Ces mesures devaient être réalisées dans un délai de 8 jours sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Le tribunal demandait ainsi à la préfecture du Pas-de-Calais de procéder dans un délai de 48 heures au recensement des mineurs isolés en situation de détresse et de se rapprocher du département du Pas-de-Calais en vue de leur placement. Voilà, donc le ministère de l'Intérieur et la municipalité ont fait appel après et on attend la suite. Sachant qu'à côté de ça, il y a eu des propos contre le mouvement No Border qui est là en soutien aux migrants et migrantes, qui apporte des soutiens juridiques et sur l'alimentation et tout ça. Et il a été dit par le ministère de l'Intérieur, la maire de Calais et la préfète du Pas-de-Calais, ils incitent les migrants à des actes de violence, ils profitent du désarroi et de la détresse des migrants et les poussent à l'émeute, ils utilisent les migrants pour leur propre combat. Voilà. Du coup, face à ces propos qui ont été tenus, il y a un appel de plein d'associations, même si elles sont pas d'accord surtout entre elles, d'associations de soutien aux migrants qui ont écrit un texte pour dire qu'elles soutenaient le mouvement No Border.
Et donc, sans transition aucune, on enchaîne avec la fin du RSA activité. Alors, le RSA activité, jusque-là, c'était déjà un petit peu compliqué, en fait, parce qu'on avait justifié le fait de mettre le RSA SOC 475 euros par le fait qu'on mettait en place le RSA Activité, qui était présenté comme une incitation au retour au travail, des fainéants d'assister, entre guillemets. Quoi. Donc c'est vrai qu'à 250 euros par mois, on avait vachement l'impression d'être assisté. Mais le problème, c'est que le système pour obtenir le RSA Activité était tellement compliqué, tellement peu connu, que finalement... finalement, le micro est tombé, du coup, c'était tellement compliqué qu'il n'y avait que un tiers des personnes qui pouvaient bénéficier du RSA qui l'obtenaient réellement. Et donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la DARES, donc c'est quand même un organisme d'État. Mais du coup de théâtre, le 1er janvier 2016, le RSA activité va disparaître pour être remplacé par la prime d'activité. La prime d'activité, ça va remplacer donc le RSA activité et la prime pour l'emploi. Du coup, t'en as tout perdu. Donc, l'idée de remplacer la prime d'activité, pas de remplacer le RSA activité, c'est d'inciter en fait donc ces assistés à travailler encore davantage. Du coup, ça va maintenant tout être reçu qu'aux gens. Les gens qui touchent entre 0,5 SMIC et 1,2 SMIC vont pouvoir la recevoir. Ce sera au maximum 250 € comme le RSA activité actuellement. Et le maximum, ça va être aux alentours de 800 € pour ceux qui touchent 800 €, ils vont pouvoir toucher 250 €. Et au minimum, ce sera de 15 € pour celles et ceux qui touchent 1,2 SMIC. Donc, pour prendre le calcul de cette prime d'activité, on prend en compte les revenus de la personne, mais aussi la structure familiale. Donc en fait, on nous vend un petit peu cette prime d'activité comme une simplification des deux systèmes précédents, parce que la prime va être évaluée tous les 3 mois, au lieu de tous les mois pour le RSA activité actuellement. Et
C'est réactualiser
tous les 3 mois, mais c'est en fonction des revenus de chaque mois que ça peut changer. Tandis que là, si tu mets tes revenus sur les 3 mois qui sont réactualisés changent, ça va pas modifier le RSA que tu vas toucher. Tu me chies? Que en gros, on va plus te demander de reverser des trop perçus comme ça.
Plus que 2 minutes.
Et ben c'est bien alors.
On a l'impression que c'est bien. Sauf que, du coup, ils ont vachement modifié les plafonds. Et donc, selon eux, il y aurait 1245 millions de ménages qui vont gagner. Et il n'y aurait que 824 000 qui vont perdre. Donc, on a l'impression qu'on y gagne. Sauf qu'en réalité, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils suppriment la prime pour l'emploi. Et du coup, tous les gens qui touchaient la prime pour l'emploi, ça se faisait de façon complètement automatique. En fait, on obtenait la prime pour l'emploi juste en déclarant ses revenus. Et là, du coup, il va falloir faire une démarche pour obtenir la prime d'activité. Du coup, ça veut dire qu'il y a, a priori, seulement un tiers des gens qui pourraient avoir la prime d'activité qui vont en faire la demande. Donc, on a l'impression de gagner de l'argent, alors qu'en fait, du coup, c'est juste une putain d'économie pour l'État qui va, du coup, lui, gagner toutes les primes pour l'emploi qu'il versait jusque-là. Demander le RSA activité ou demander la future prime d'activité, ça demande quand même un putain de flic.